11h, 12h30.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Il me l'a dit en tête à tête. Il ne sera pas tête de liste d'aucun parti, de tête à claque. Et c'est pas faute de n'en faire qu'à sa tête. Il a la tête dure et bien faite. Didier Porte est là.
Salut.
Et si on le cherche, il vous donne un coup de tête. Elle va partir demain à Cannes présenter un film retraçant sa vie amoureuse dans la catégorie très très court métrage.
Oh,
elle est pressentie pour obtenir le râteau d'or. Léa Lando.
Dis-moi que j'ai un prix. Bonjour.
Il a appris ce matin qu'un Robert illustré était un dictionnaire et non un tatouage sur la poitrine. Ben H.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Depuis qu'il sait qu'on peut être espionné sur son smartphone, il ne l'utilise que lorsqu'il est éteint. Du coup, plus personne n'arrive à le joindre. Laurent Barra.
bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et c'est bien beau les festivals de Cannes, mais en attendant, je déclare ouverte cette nouvelle journée de bonne humeur avec Anne Romanoff.
Au sommaire de cette émission, Didier Porte nous expliquera pourquoi il est inquiet. À 11h30, nous recevrons Frédéric Zetoun qui vient de sortir un nouvel album duo en solitaire et qui sera en concert au Café de la Danse à Paris les 12 et 13 juin prochains. Laurent Barra évoquera le quotidien des personnes en situation de handicap. Et à partir de 11h50, notre invitée sera Marie-Christine Barrault qui sera cet été au Festival d'Avignon dans la pièce Georges et Sarah de Thierry Lassalle. Ben H reviendra sur sa carrière et Léa Lando lui fera le questionnaire de Proust.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
La nouvelle édition du Robert Illustré sort aujourd'hui en librairie. 109 mots y font leur entrée, certains venant du québécois comme amphiroapé, qui signifie tromper dupé. La dernière fois que vous avez été amphiroapé, c'était pourquoi ? Laurent ?
Ah mince, amphiroapé, ça veut dire tromper ? Je suis sorti avec une québécoise cet été et un soir elle m'a demandé: Laurent, est-ce que tu m'amphiroapes?
Alors, et vous l'avez répondu quoi?
Eh ben, je croyais que ça voulait dire Laurent, est-ce que tu m'aimes? Alors j'ai répondu oui et du coup elle m'a quitté.
Elle parlait comme ça, la québécoise.
Bah, j'arrive pas à faire.
Oui, je vois. Ouais.
Tabernacle, tu m'amphiroapes, Laurent?
Non, demande à Anne, elle est très forte
pour
ça.
Allez-y.
Tellement envie que tu m'amphiroapes.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, elle le fait bien.
Vous avez, Ben H, vous avez un mot à proposer dans la nouvelle édition du dictionnaire?
Si je peux me permettre, pour l'édition 2021, moi je propose roumanofé.
Qui.
qui veut dire action de manger deux parts demi-cuits au chocolat, mais contrebalancer en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur pour se donner bonne conscience. Exemple, mais dis donc, tu es soufflé, l'ascenseur est en panne? Non, j'ai juste roumanouffé ce midi.
Je ne mange même plus de demi-cuits en chocolat depuis...
Depuis hier, ouais.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Un homme a été interpellé à Paris pour avoir fait un doigt d'honneur à Emmanuel Macron lors de l'hommage aux soldats morts au Burkina Faso. Pourtant, il ne fait que suivre la politique du président, obéir au doigt et travailler à l'œil.
Pendant son procès, Patrick Balkany a laissé retentir la sonnerie de son téléphone. C'est la musique des tontons flingueurs. Bon, en fait, le mec se prend pour un acteur, quoi. C'est pas à la mairie de Levallois qui devrait être, mais au Festival de Cannes.
Procès Balkany, l'employé d'un pressing raconte qu'un jour, les époux Balkany avaient oublié 7 billets de 500 euros dans une veste.
Oh.
Je crois pas qu'ils les aient oubliés, à mon avis, c'était juste pour blanchir un peu leur argent sale.
Aujourd'hui, sortie de la nouvelle édition du Robert Illustré 2020, et on peut le trouver où, ce Robert? Non, parce qu'au stade où j'en suis, moi, Robert, un Gérard, ou même un Marcel, ça me va.
La SNCF change de tarif et de carte d'abonnement. Désolé, la blague qui devait suivre a du retard. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du vivre ensemble. Mais on vit déjà ensemble. Non, si vous voulez vraiment me faire plaisir, lancez la journée du vivre tout seul. Là, je me réjouirai. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du vivre ensemble. C'est tout l'effet que ça vous fait. Hein. Ce sont les seuls commentaires que ça suscite chez vous. On vous parle de vivre ensemble, de convivialité, d'harmonie, de chaleur humaine, d'attention aux autres. Et c'est tout ce que vous trouvez à donner. Vous êtes vraiment une bande de cons. Enfin.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Didier Porte, Laurent Barra, oui. Ben H, Léa Lando et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour pour deux personnes en hôtel 5 étoiles en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ».
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Laurent Barra, oui. Léa Londo, Ben H, ouais. Et Didier Porte, toujours aussi sémillant.
Printanier. Attends, là, il est désorganisé dans ses papiers.
Je mes papiers, là.
c'est quoi c'est le centre des impôts, là-bas. Ah
ouais, non, là, c'est le moment de notre jeu.
Ah bon, oui.
Il s'appelle comment, Ben?
Il s'appelle Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Mmh. Meghan Markle et le prince Harry fêtent ce week-end leur premier anniversaire de mariage. On va vous demander de trouver des personnalités sur le thème du mariage et vous avez un très beau cadeau à gagner grâce à Europe 1 et l'hôtel Espa Jules César McGallery. Tentez de gagner un séjour tout confort de deux nuits avec petit déjeuner pour deux personnes situé au centre-ville d'Arles, jadis couvent des Carmélites au XVIIe siècle, entièrement rénové et décoré en 2014 par Christian Lacroix.
Mais jadis, on dit, non?
Ah oui, jadis. Situé au centre-ville d'Arles, je prends la voix de Stéphane.
Oui, voilà, prends la voix. Oui.
Jadis, couvent des Carmélites au XVIIe siècle, voilà. Entièrement rénové et décoré en 2014 par Christian Lacroix,
oui.
L'hôtel Espa Jules César
j'adore.
Vous offre des vrais moments de détente et de bien-être. Sublimé par les éléments du XVIIIe siècle et d'art contemporain,
oui.
Cet hôtel vous transportera dans un univers poétique hors du temps.
Oui, on va y aller.
Une escale idéale sur Arles. Classé au patrimoine de l'UNESCO. Plus d'infos sur www.hotel-julescésar.fr. On joue avec Virginie. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Virginie, vous avez 43 ans, vous êtes enseignante, vous habitez à Bouzy-la-Forêt.
Ouais, c'est ça.
Bah, il faut la respecter la forêt, il ne faut pas la bousiller. Hein.
Oh là là.
C'est pas ma meilleure, mais
vous
je
êtes,
la garde.
Vous êtes quoi comme enseignante de quoi?
En CP.
Ah, c'est bien, oh, vous apprenez à lire aux
mignon.
Enfants.
Eh oui.
Ils sont mignons, ils vous admirent, ils vous respectent.
J'espère.
Il faut avoir une patience.
Mais à 6 ans, ils sont amoureux de leur maîtresse.
Pas tous.
Et les parents.
Il y en a
qui
ne trouvent pas rigolote quand même.
Mais les parents vous laissent tranquille en CP.
Ah non, pas du tout. Mais non.
Ah bon
pire, en fait, c'est pas les élèves le pire, c'est les parents.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire?
Ben ça va jamais.
Qu'est-ce qu'ils vous reprochent?
Eh ben qu'on les oblige à travailler en fait.
Ouais, mais c'est vrai que vous donnez trop de devoirs aux enfants, ça se fait pas.
Alors moi, j'en donne pas beaucoup des devoirs parce que justement, quand ils ont fait leur journée de classe, après, ils sont quand même.
Bah oui. Ils sont crevés.
Ouais, non, je ne donne pas beaucoup de devoirs.
Vous avez des enfants qui sont hyperactifs, très chiants, et les parents vous disent simplement « Non, mais je pense qu'il est un peu en avance. »
Il est épanoui.
Ils sont précoces.
Enfin, ils sont précoces, ouais. Ouais.
Alors que l'enfant est juste casse-pied, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et vous êtes sévère, Virginie, comme prof, comme maîtresse?
Non, j'essaie d'être juste.
Et alors, vous êtes mariée, vous connaissez votre mari depuis l'âge de 16 ans?
Waouh.
Oui.
Et tout de suite, c'était le grand amour?
Oui.
Waouh.
Eh ben, on vous emmerde.
C'était tellement spontané.
Ah ouais, c'est ça, alors là.
Ça vient tellement du cœur.
Non, mais tant mieux pour vous.
Ouais, pour vous, mais bon. Ouais.
Franchement, arrêtons là, on fera pas mieux. Ouais, merci pour tout, Claire.
Vous avez un petit conseil, c'est
oui,
ça.
Oui, allez, donnez des conseils.
Ouais, dites-nous, Virginie, c'est quoi le secret?
J'en ai pas, en fait. Je crois qu'on s'est trouvé, puis voilà. C'est
mais que, ouais.
Voilà.
En même temps, à Bouzy-la-Forêt, il n'y a pas beaucoup de monde, non?
Oh là là.
Ouais, non, c'est pas... Alors, on ne s'est pas du tout rencontrés à Bouzy-la-Forêt, parce qu'on a fait 11 déménagements. Donc,
11
voilà. Et ben oui, parce qu'entre les études et tout ça, et ben voilà, lui, il est parti un an en Irlande, et puis voilà, on s'est retrouvés, et puis voilà.
Ah ouais, bah c'est ça le secret, c'est de faire une pause irlandaise.
Et c'est le secret, c'est de déménager 11 fois, vous entendez, bande voilà, de losers. Alors vous avez un groupe de musique, Virginie, qui s'appelle les Hashtag Indécises.
Ah bon
ouais. Oh.
J'adore.
C'est quoi comme groupe?
C'est un groupe de filles,
Girl
Power.
Girl Power, mais vous chantez quoi?
On chante de la pop rock des années 90. On
genre
est, génial.
Des reprises
on est... Voilà, des reprises. Mais on est une guitariste, un clavier, une bassiste et une batteuse.
Et vous êtes à quel poste?
Elle chante.
Moi, je suis guitariste et chanteuse.
Ah. Et vous faites souvent des concerts?
Eh ben, on en fait de temps en temps, là, ça commence avec la période et tout ça.
Pour les mariages et tout ça?
Non, pas pour les mariages, on joue dans des bars, pour des soirées, des trucs comme ça.
Mais vous devez vous faire draguer des nanas à la guitare, à la batterie et tout.
Ben non, il y a mon mari qui veille au gras.
Il vient à chaque concert, votre mari?
Presque, ouais, souvent.
Ah, disons.
Bon, Virginie, on est là pour jouer.
Oui.
Pas pour écouter votre vie sentimentale heureuse.
Et vu que vous voulez pas chanter,
moi, je
de toute façon.
Préfère les gens qui ont des problèmes.
Bah
c'est
ouais,
vrai,
c'est vrai,
j'adore,
on
parler,
plus, ouais.
J'adore
bah
parler oui. à des gens qui ont des problèmes.
Bah ouais.
Je me sens mieux. Bon, Virginie, liste 1 ou liste 2?
Liste 1.
Et vous jouez avec qui?
Avec Léa.
Oh oh. Alors,
vous êtes prêts?
Attends, non, va pas falloir ouais. être indécise là, va falloir y aller à fond.
Des personnalités qui sont liées au thème du mariage. Attention, vous êtes prêts? Top chrono.
C'est le mari de Kate Middleton.
C'est William.
Oui, lui il chantait Allumer le feu.
Johnny.
Oui, lui il chante Jardin d'hiver, il est mort à plus de 90 ans.
C'est Henri Salvador.
Oui, lui c'est un entraîneur, c'est le mari d'Estelle Denis.
Domenech.
Oui, lui il chante Lucie, mon millésime, il est chauve, il joue. Oui, elle c'était une Marianne, Miss, une mannequin, elle joue dans Facteur Cheval, une très belle fille. Ok, elle joue dans Marie à tout prix, The Holiday, une actrice américaine.
Oui.
Elle c'est une actrice aussi, elle joue dans Closer, très belle, elle parle français.
Bah,
c'est pas mal.
C'est pas mal.
Et
du
bien
tout.
Bon week-end.
Si, bonne réponse, Virginie. Ouais. C'est bien parti pour partir à Arles. Vous n'aviez pas trouvé Laetitia Casta, qui s'était mariée en toute discrétion avec Louis Garrel en 2017 en Corse. Et Nathalie Portman, qui s'était mariée aussi avec Benjamin Millepied. C'est pas mal du tout. Si, bonne réponse.
Si, c'est
bravo.
Pas mal du tout, Virginie.
C'est bien parti pour ce week-end à Arles.
La liste 2 est jouable.
Cool.
Oui.
Ouais, la liste 2 est plus simple. Donc
ouais,
en même temps,
on va faire moins bien. Bon. Faire moins bien.
On va voir comment se débrouille Thierry. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Thierry, vous avez 40 ans, vous êtes professeur de guitare, vous habitez à Retourne. C'est où Retourne?
C'est dans les Ardennes.
Dans les Ardennes.
Oui.
Et vous avez 50 élèves à qui vous apprenez la guitare.
C'est ça. Voilà. Wow. Pour rester dans le thème de Virginie.
Ah ouais. Et ouais. Vous êtes seul vous aussi ou vous êtes heureux comme Virginie?
Ah non, je suis désolé, je vais ruiner votre journée. Je suis dans la même situation, je connais ma femme depuis l'âge de 17 ans.
Non. Et vous êtes heureux?
À fond.
Oh là là. En fait, ils sont
garçons,
ensemble,
super.
Les chiens.
Comment?
Je dis, en fait, ils sont ensemble.
Mais non, ils sont pas ensemble, ils habitent au même endroit.
Ouais, je sais.
Ouais.
Bah, tant mieux pour vous si vous êtes heureux, Thierry.
Je suis désolé.
De toute façon, on va couper la séquence, on va prendre d'autres gens.
Oui, voilà, c'est ça.
On est content pour vous. Et vous faites de la MMA, c'est quoi ça?
Oula,
l'assurance. Bah,
c'est ce que je fais.
Voilà, Mickaël n'est pas là, Ben H. peut l'expliquer.
C'est du sport de combat, quasi tous les coups sont permis, c'est ça hein? Dans
ouais,
une cage.
Ben, nous, on fait ça en entraînement, donc, mais oui, c'est ça.
Et vous en faites combien de fois par semaine?
Bah, l'entraînement, j'y vais une fois, mais sinon, je m'entraîne tous les jours. Quand je peux, parce que j'ai deux enfants quand même.
Ouais.
Mais ouais, une petite
vous allez,
heure.
Vous allez à la salle tous les jours?
Non, chez moi.
Ah oui, vous avez un punching ball, c'est ça?
Voilà.
Mais vous devez être un beau bébé quand même. Hein, parce
c'est
que...
un terme des années 80, mais c'est ça, oui.
Pourquoi c'est un terme des années 80? On
comment
dit comment on appelle ça?
Un sac de frappe.
Oh, un sac de frappe. Oh,
ben oui, mais c'est que...
On est en France, un sac de frappe.
Un sac de frappe, j'ai jamais entendu ça.
Si, si.
Pourtant, vous fréquentez souvent, on peut
les
le dire,
salles
les salles de sport.
Bah oui.
Vous avez décidé de m'énerver ce matin. Bon, Thierry. Vous qui êtes heureux en amour, vous jouez avec qui?
Oui, je vais prendre Ben H.
Allez.
Ouais. Bah, tentez le coup.
On tente
il a
le
dit
coup.
Que c'était jouable, même si...
Ouais. Bon. Elle est plus facile.
J'aurais très peur de faire perdre un combattant de MMA, quand même.
Oh, c'est pas grave. On joue pas pour gagner.
Oui.
Bah quand même, ce serait bien que vous partiez en week-end avec votre chérie.
On va le faire.
Sûr.
Attention, top chrono.
C'est un humoriste qui avait toujours une salopette, un t-shirt jaune qui a monté les enfoirés.
Coluche.
Oui, c'est le mec de Kim Kardashian, un rappeur.
Je passe.
Un acteur français, Chouchou et Loulou.
The
Artist.
Oui, je passe.
Une chanteuse, Baby One More Time, chanteuse américaine, blonde.
Britney Spears.
Ouais, une chanteuse française, Joe Le Taxi.
Vanessa Paradis.
Oui, l'actrice de Alerte à Malibu avec une énorme poitrine et Adil Rami. Ouais, un rouquin, un chanteur anglais rouquin. Oui, c'est ça. Elle a gagné de la Star Academy 2, elle a un strabisme, elle est blonde.
Elle a un strabisme, elle est blonde.
Un footballeur français.
Oh là là là.
Perdu. Oh là là.
Cinq
bonnes réponses. Vous avez bugué sur Kenny West quand
même. Ah, Kenny West, oui.
Et Jean Dujardin. Jean Dujardin, vous alliez à Arles. Hein.
Et elle va être très contente, Élodie Frégé, d'apprendre qu'elle avait un strabisme.
Belle mise en avant. Belle mise en avant.
Non, elle n'a pas de strabisme.
Mais si, elle le met en avant. Si, je vous garantis que si. Elle le met en avant, elle en parle.
Non, mais franchement, c'est une très belle chanteuse.
Elle est magnifique.
Elle a eu un album avec Benjamin Biolay. Il y a autre chose à dire que de parler de son apparence physique.
Mais oui.
Toujours
en dessous de la ceinture,
à leur apparence physique, mais c'est du sexisme.
Salaud Ben H.
Je me fouette.
Flagelle-toi.
C'est très flatteur. Jean-Paul Sartre avait un strabisme.
Ah, vous êtes là? Merci Didier de remettre l'église au milieu du village.
Merci pour cette parenthèse culturelle, Didier Porte. Bon, désolé Thierry, vous avez 5 bonnes réponses. Bon, vous pouvez rejouer avec nous d'ici un mois si vous voulez.
Avec plaisir.
Virginie ?
Oui !
Europe 1 et l'hôtel Espa Jules César Malgalerie vous offrent un séjour tout confort de 2 nuits avec petit déjeuner pour 2 personnes situé au centre-ville de Arles, jadis couvent des Carmélites. Situé au centre-ville de Arles, jadis couvent des Carmélites au XVIIe siècle, entièrement rénové et décoré en 2014 par Christian Lacroix, une escale idéale sur Arles, classée au patrimoine de l'UNESCO. Plus d'infos sur www.hotel-julescésar.fr. Bravo Virginie.
Bravo.
Merci beaucoup.
Vous allez jouer, vous allez partir avec qui?
Avec mon mari, évidemment.
Vous allez bien profiter.
Oui.
Surtout que Bouzy-la-Forêt, c'est pas dans le sud.
Non, carrément, non.
Bon, on vous embrasse, Virginie.
À bientôt.
Profitez bien ce week-end.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londo, Laurent Barra, Ben H et Didier Port qui nous expliquera pourquoi il est inquiet.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Laurent Barra, Léa Londo, Ben H, Didier Port. Didier Porte, je commence à savoir comment vous fonctionnez. Soit vous êtes furieux, soit vous êtes inquiet. Donc aujourd'hui, je crois que vous êtes inquiet.
Bingo ! Je suis même très inquiet à cause de cette information publiée dans Le Parisien d'avant-hier. La France vient d'intégrer pour la première fois le top 5 des pays les plus attrayants pour les investisseurs internationaux.
Bah c'est une excellente nouvelle, ça.
Non, mais jamais de la vie, malheureuse. C'est une catastrophe. Aux Parisiens, ils sont comme vous. Ils ne réalisent pas ce que ça implique. Ils commencent leur papier par « Cocorico ». Mais non, déplorables inconscients que vous êtes, pas cocorico, mais cocoricouille, ouille. Pardon, ça m'a échappé. Hein. On vit relativement peinard, sous un régime capitaliste semi-monarchique, plutôt pépère, avec quelques grosses légumes qui se gobergent, les parrains du CAC 40, pas très fréquentables, c'est vrai, mais surtout beaucoup de petits patrons qui tirent le diable par la queue et qui ont un bon fond, une protection sociale quasi scandinave, les 35 heures plus ou moins appliquées, mais l'intention y est. Ajoutez à ça qu'on fait le meilleur vin du monde et qu'on a encore les moyens de nous en acheter quelques bouteilles rien que pour nous, et pour couronner le tableau, qu'on a failli avoir Stéphane Bern comme ministre de la Culture. Face à un tel bilan, on se dit, comme Depardieu dans Les Valseuses, qu'on est pas mal comme ça, tranquille, à la fraîche, décontracté du... Non, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, pardon. Il est donc impératif de dissuader ces gens-là de venir gagner de l'argent chez nous à coup de plans sociaux en rafale, de revente de nos usines à la découpe, de captation de subventions massives et autres flibusteries financières. Je propose que nous commencions tout de suite notre campagne d'auto-dénigrement. Ça tombe bien, je parle couramment anglais, nous allons pouvoir nous adresser à eux directement. C'est parti. Chers investisseurs étrangers, dear foreigner with big money, de grâce, ne venez pas en France. Please don't come in France. C'est un pays dangereux. There are a lot of communists everywhere and also trade union leaders with big moustache. Il y a des communistes partout et des syndicalistes comme le sergent Garcia dans Zorro. On me dit que vous n'avez pas peur des gilets jaunes. You are not afraid by yellow jackets. You are wrong. Vous avez tort. Ils sont très dangereux et méchants. They are so dangerous and cruel. You never listen Francis Lalanne singing. It is a very brutal experience, like a nightmare. C'est un cauchemar, ne venez pas, on vous dit. I repeat to you, don't come here. France is not a startup nation. France is a feignasse nation. Nuance. You know what is notre devise? It is that France cannot accueillir all the richesse of monde. Alors keep out, please. Oust, circulez, let the France alone. Hey
sur Europe 1.
Non, ben je pense, Didier, que les étrangers vont être sensibles à votre message.
C'est sûr.
Et à votre accent.
Il est remonté, Didier.
Je ne savais pas que vous étiez bilingue à ce point-là.
Ouais, bah c'est un talent comme ça que j'ai.
Il en a plein des talents cachés, je suis sûre.
Je parle italien aussi. Ah, pas cool.
Alors, vous savez que les auditeurs nous envoient du courrier, des mails, des messages. Alors, voici une petite sélection. Il y a Brigitte Diochet qui nous dit « Anne Romanoff est craquante ». Écoutez, merci Brigitte, c'est aussi ce que m'a dit ma petite jupe moulante quand je l'ai fait craquer. Un message pour Didier Porte, Sophie Mercier qui nous dit « Didier Porte, vous illuminez mes semaines, ici ou là-bas ».
Oui, alors Sophie, j'avoue que vous me mettez dans l'embarras. Je ne sais pas si je dois vous remercier ou m'inquiéter. Que j'illumine vos semaines en les éclairant de mes lumières, je le conçois assez facilement. Mais je m'interroge sur le « ici » ou « là-bas ». « Ici », j'arrive à situer, mais « là-bas », c'est un peu vague. Est-ce une façon courtoise de m'inviter à aller voir « là-bas » si j'y suis ou une maladresse révélant malencontreusement à la direction d'Europe 1 et à l'administration fiscale que j'exerce également mes talents généreusement rétribués sur d'autres médias ? Vous comprendrez que je ne puisse vous remercier qu'à moitié, donc je vous dis « mère ».
Un message pour Léa de Francis Bourguignat qui nous dit « Ce genre d'humour que j'adore, continuez, vous avez beaucoup de talent et un style personnel unique et la quarantaine vous va très bien. »
Eh ben, merci Francis, hein, j'ai beaucoup apprécié votre message jusqu'à ce que vous évoquiez ma quarantaine. Voilà, j'assume mon âge, hein, mais j'aimerais bien que les hommes ne me mettent plus en quarantaine justement.
Alors, bonjour Anne, je me présente, Steven Johnson, directeur de l'artistique de l'agence Elite Model Looks. C'était pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Ben H ne nous intéresse pas du tout, il ne correspond pas à nos critères, à savoir beau. Il pourra continuer à faire de la radio, oh, Dieu merci. Par contre, Anne, n'hésitez pas à m'appeler, même si je sais que le monde entier vous réclame. Mais c'est le prix à payer pour photographier la 8e merveille du monde.
Oh, tu l'as écrit celui-là ?
Oui, c'est moi qui l'ai écrit.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Léa Londeau, Didier Porte, Laurent Barra, Ben H. Et notre invité Frédéric Zetoun qui vient de sortir un nouvel album, duo en solitaire, et qui sera en concert les 12 et 13 juin au Café de la Danse à Paris.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Laurent Barra, Notre premier invité est parolier et chroniqueur musical, bien connu des téléspectateurs de Télématin. Il a écrit entre autres pour Louis Bertignac, Zaz, Hugo Frère, Enrico Macias. Il va nous parler de son album Duo en solitaire, des duos exclusifs avec les plus grands de la chanson française, dont Charles Aznavour. Il sera en concert à Paris au Café L'Atlante 12 et 13 juin. Et nous évoquerons avec lui l'opération Duo Day pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Applaudissez Frédéric Zetoun.
Merci.
Bonjour Frédéric Zetoun.
Bonjour Anne.
Alors moi, on vous connaît comme chroniqueur à Télématin depuis des années.
Oui.
Et puis, vous faites de la scène aussi.
Oui, aussi.
Et je ne savais pas que vous écriviez autant de textes pour
des chanteurs.
Oui, je ne savais pas ça. Bon,
en fait, la télé, vous savez, on voit toujours la vision, la face visible de l'iceberg. En fait, bien avant de faire de la télé a été un heureux événement, un très heureux événement qui m'a fait plaisir de suivre. C'est un chemin que j'ai suivi avec plaisir. Mais c'est vrai que depuis toujours, j'écris des chansons. Mais depuis que je suis tout petit.
C'est votre premier métier, quoi.
C'est mon vrai métier. En fait, la colonne vertébrale de mon activité, c'est la chanson.
Ouais.
Un jour, j'ai fait un livre sur les chansons tout en écrivant pour les autres. Ce livre est arrivé d'abord sur le bureau de Jacques Martin. J'ai fait des parodies musicales et des sketchs chez Jacques pendant 4 ans. J'ai rencontré William Lémergie qui renouvelait un petit peu son équipe et l'émission de Sophie d'avant, c'est au programme. Bah voilà, on est rentré là. Et puis en parallèle, j'ai toujours écrit pour les autres.
Alors, dites pour qui vous avez écrit des chansons, Frédéric?
Alors, depuis 21 ans, c'était l'idole de ma jeunesse, Frédéric François, avec qui je suis copain et ami maintenant depuis 21 ans. J'écris pour lui, j'écris pour Enrico Macias, j'écris pour Louis Bertignac, j'écris pour des tas de jeunes artistes aussi, pour Hugo Frey, pour Carlos, enfin, pour toutes les jolies rencontres que j'ai pu faire. Moi, c'est pas tant l'artiste qui m'importe que l'homme. Bon, généralement, tous ces gens-là ont du talent.
Il y a que des hommes d'ailleurs. Vous écrivez pour des femmes aussi?
Oui. J'ai écrit pour Lenaka, une jeune artiste qui n'a pas eu la carrière qu'elle aurait dû faire. J'ai écrit récemment
Zaz aussi.
Pour Zaz, effectivement. Merci Anne. J'ai écrit pour Zaz récemment. Non, moi c'est open.
Et là, vous chantez vous alors maintenant?
Ouais, ça c'était une envie. J'ai présenté la tournée H Tendre et Tête de Bois il y a une dizaine d'années. Vous savez, cette tournée qui remettait sur le devant de la scène des artistes des années 60 et 70. Et j'ai pris du plaisir à être sur scène. J'osais pas en rêver, en fait. Je n'osais pas en rêver en me disant, c'est très bien. Il y avait aucune amertume, aucune. J'étais très heureux. Je suis toujours très, très heureux en écrivant pour les autres. Moi, j'assume ça à 200%. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer? Il y a des chansons.
Et donc là, vous avez chanté à la langue.
l'Alhambra aussi, tous les dimanches.
Tous les dimanches, voilà. j'étais chanteur du dimanche.
Et là, du coup, pendant un an pratiquement.
Plus d'un an, plus d'un an. On a fait une saison et demie à l'Alhambra. Avant ça, j'avais fait un spectacle qui était joué et chanté, qui s'appelait L'histoire enchantée du petit juif à roulette, qui parlait de la différence. Et puis, depuis l'Alhambra, comme il y avait pas mal de copains qui venaient chanter à la fin.
Vous avez l'idée de faire un disque de duo.
Voilà, c'est mon producteur, ami, et sans qui je ne serais pas là, et Gérard Davoust, qui a été 46 ans durant l'associé. Il n'était pas dans l'ombre, il était dans le soleil de Charles Aznavour, qui m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un disque avec tes chansons, en demandant aux gens pour qui tu as écrit de venir pour le coup.
Et donc Charles Aznavour vous a fait le plaisir d'enregistrer, c'est son dernier enregistrement.
Oui, ça a été un vrai cadeau de la vie. Il m'avait fait l'amitié et l'honneur de mettre deux textes en musique, et bien au contraire, est une chanson qui lui plaisait beaucoup. Et Gérard Davoust se dit, voilà, on va faire un album de duo avec Fred. Est-ce que vous aimez ? Très bien. Et on est allé, il y a un an, pile poil, l'enregistrer chez lui, à Mouriès, dans le Sud. Et il a chanté ça. Vous savez, la grandeur des grands, c'est-à-dire l'élégance des grands, avec une simplicité totale. Avec Charles Aznavour, quand vous le rencontriez, il ne parlait pas de lui, il ne parlait pas de vous. Il ne parlait que de vous. Il ne parlait que de vous. Il avait cette espèce de curiosité de l'autre, moi qui me bouleversais à chaque fois.
Donc on va écouter un extrait de votre album. C'est un duo avec Marie-Paul Bell. Ce sont l'homme de la télé. C'est toutes les conneries qu'on vous dit quand on vous reconnaît dans la rue, en fait.
Oui, ou quand on vous reconnaît, mais vaguement, quoi. On sait que vous êtes connu, mais.
On écoute.
Elle est comment, Sophie d'avant ? Est-ce qu'il est gentil, l'énergie ? Faut-il coucher pour faire carrière avec toute la famille Drucker ? Et de la housse sous son brushing ? A-t-il vraiment fait un lifting ? Evelyne Delia, ça, j'y crois pas. Ah non, elle l'est fait vraiment pas. Mais je ne veux pas vous embêter, j'espère que c'est pas indiscret. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé.
Mon ego en prend un coup, car je comprends à présent que de mon nom elle s'en fout, comme de son premier amant. Je me dis, ben c'est la vie, faut pas en faire une salade. Quand elle hurle à son mari,
viens voir ces grands corps malades.
Et j'entends le concubin me dire, puisque je vous tiens.
Elle va comment, Sophie d'avant ? Est-ce vrai ce qu'on dit sur Nagui ? Faut-il être admis à Sciences Po pour jouer au jeu de Beccaro ? Et qui d'Anouna ou d'Arthur a la plus grosse des voitures ? Et Sébastien, si on le pousse, sort-il son petit bonhomme en mousse ? Mais je ne veux pas vous embêter, j'espère que c'est pas indiscret. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé.
Europe.
Si vous voulez en entendre plus, allez voir Frédéric Zetoun au Café La Danse les 12 et 13 juin à Paris. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Laurent Barra, ouais. Léa Landau-Benache et notre invité Frédéric Zetoun, venu parler de son album duo en solitaire et puis du concert à venir les 12 et 13 juin au Café de la Danse à Paris avec plein d'invités surprises, Frédéric Zetoun.
Oui, tout à fait.
Un de vos grands combats, Frédéric Zetoun, c'est pour l'accessibilité des lieux publics aux handicapés.
Oui, ça c'est vrai que ça fait partie des choses qui peuvent me mettre en colère vraiment.
Vous êtes handicapé depuis la naissance ?
Oui. Ouais.
Vous êtes né comme ça.
Oui, mais j'aurais pu être juif aussi en plus.
Vous dites que dans votre famille, il y avait une joie de vivre. On vous a appris à avoir le bon côté des choses.
Toujours, mais ça, c'était pas du tout lié au handicap. Enfin, je veux dire qu'on a toujours vécu avec des parents qui n'étaient pas non plus. On vivait pas chez les bisounours. Hein. C'était, il y avait une réalité de la vie qui n'était pas toujours simple. Mais entre une bouteille pleine et une bouteille vide, j'ai des parents qui ont toujours préféré voir la bouteille pleine.
Alors pourquoi tout le monde dit il faut que les lieux publics soient accessibles et pourquoi ça bouge pas ? Il y a une loi quand même qui oblige.
Ouais. C'est justement ça, moi, qui me fout en colère, c'est que. On parle toujours, on veut régler ce problème en mettant le cœur, la valeur humaine au centre de tout. Je pense que le problème n'est pas là. Je pense que sincèrement, le vrai problème aujourd'hui, c'est le droit. Aujourd'hui, il y a des textes de loi qui sont votés et qui sont sans cesse reportés. Leur application est reportée sans cesse. La mise aux normes des établissements destinés à recevoir du public a été reportée dans un délai, je vous cite parce que c'est quand même amusant, un délai raisonnable, j'insiste bien sur raisonnable, de 3 à 9 ans. Dans 9 ans, il y a des gens qui seront morts, quoi. Et tout le monde s'en fout. Des commerçants peuvent réouvrir après travaux, des restaurateurs peuvent réouvrir après travaux en payant simplement une amende et en ayant une dérogation. Dérogation de quoi ? dérogation à la loi. Enfin, c'est juste aberrant. On est très, très en retard en France.
Et même dans les services publics. Le métro, aujourd'hui, il y a toujours moins de 15 stations, je crois, qui sont
équipées. Il y a la ligne 14. Il y a la ligne 14. Il faut que vous aimiez, que vous travailliez, que vous bossiez, que vous dormiez sur la ligne 14.
Ça représente 7 stations. Ça représente 7 stations.
7 stations, pour info et petite joke, la station invalide n'est pas accessible.
C'est incroyable.
Non, mais c'est... Non, mais
vous dites rire. Aussi que c'est parce qu'on voit aussi pas assez d'handicapés dans les rues que finalement...
Mais
le regard...
évidemment.
Alors que vous dites, par exemple, aux États-Unis où les lieux sont beaucoup plus accessibles...
Mais et tout le problème est là.
On voit beaucoup de gens en fauteuil et du coup, il y a une espèce d'indifférence du regard.
Si la ville, si l'infrastructure urbaine était juste accessible, si on voyait... Tout vient de ça. Enfin, je veux dire que si voir aux États-Unis un type dans le métro avec son attaché case et sa cravate large qui va travailler dans un bureau... Ça ne...
En fauteuil,
mais c'est on a acquis vraiment non plus maintenant le droit à la différence, mais le droit à l'indifférence, ce qui pour moi serait le stade ultime, ce qui serait la preuve de l'intégration parfaite. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on en est encore à montrer du doigt une personne en situation de handicap. J'aime pas le mot de handicapé. Handicapé, ça veut dire empêcher. On est en situation de handicap devant un certain problème. Pour rentrer dans votre studio, j'étais en situation de handicap juste pour monter la marche. Après, devant un micro, je suis pas plus handicapé que n'importe qui. Faire juste respecter les lois. Juste, il y a des lois qui ont été faites, qu'on les fasse respecter. Juste ça, ce sera déjà énorme.
Laurent Barra a des choses à vous dire, Frédéric Zetoun.
Ah, chouette.
Alors, comme vous pouvez le constater, depuis quelques semaines, Anne, je fréquente assidûment la salle de sport. Eh oui, tapis de course, rameur, développé couché, abdos fessiers... Je suis au bout du rouleau. Et comme le disait mon ex, l'été arrive au grand galop et ma culotte de cheval est au trot. Donc il faut souffrir pour être beau. Et cette souffrance m'a fait réaliser quelque chose de scandaleux, Frédéric Zetoun. Notre société n'est pas du tout adaptée aux sportifs victimes de courbatures. Rendez-vous compte, Frédéric Zetoun. Hier soir, j'étais au restaurant avec des amis, histoire de rattraper les 300 calories malencontreusement perdues la veille en cours de Zumba. Et avant le dessert, je pose cette question complètement stupide au serveur. Pardon monsieur, est-ce que vous auriez des toilettes, s'il vous plaît? Et lui me répond, presque sur le ton de la moquerie, mais monsieur, bien sûr que nous avons des toilettes. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. En bas de l'escalier, à gauche. Eh en oui. bas de l'escalier à gauche. Mais si nous ne sommes pas au Moyen-Âge, où est l'ascenseur, où est l'ascenseur? Et comment font vos clients handicapés? Eh oui, pour ma part, je ne suis que le messager des sportifs occasionnels et mal échauffés. Mais vous, Frédéric Zetoun, vous êtes la voix de ceux que l'on n'entend pas, la voix de ceux que l'on a tendance à traiter comme des citoyens de seconde zone. Et c'est en cela que vous, vos chroniques, vos musiques sont essentielles. Vous, le révolté de ces grands oublis qui font de la vie des personnes en fauteuil roulant des épreuves dignes de Koh-Lanta, comme vouloir entrer dans un magasin et buter sur une marche, ou même retirer de l'argent à un distributeur d'argent beaucoup trop haut.
Ça c'est drôle.
C'est fou. Continuez la lutte, Frédéric Zetoun, pour ceux qui souffrent de l'ignorance des autres, pour Eric, un de mes meilleurs amis, toujours souriant malgré son fauteuil roulant. Tous ces oubliés du système, pour qui, à n'en pas douter, vous êtes la plus utile des béquilles.
Merci.
Hop. Merci Frédéric Zetoun d'être passé nous voir. On rappelle que vous serez en concert à Paris les 12 et 13 juin au Café de la Danse. Et puis il y a des concerts à venir le 9 juin, festival Les Notes de Périgny en Charente-Maritime. 14 juillet au Francofolie de La Rochelle. 16 juillet à Pertuis. 18 juillet au Théâtre de Blois. Et puis votre album Duo en solitaire, avec des duos avec Doc Gynéco, Linda Lemay, Marie-Paul Bell, Yves Duteil, Michel Fugain, Charles Aznavour, Enrico Macias, Manu Dibango, Oldelave, Sam Severino et Fib Laville. Merci à vous.
Merci à vous. Merci.
Merci Frédéric Zetoun. On se retrouve dans quelques instants. C'est Marie-Christine Barrault qui sera notre invitée, ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Laurent Barra.
Oui.
Léa Londo.
Benach.
Notre invité qui est une figure incontournable du cinéma, du théâtre, mais aussi de la télévision française. 50 ans de carrière, 55 films, 47 séries ou téléfilms, 40 pièces de théâtre, une nomination aux Oscars. Son oncle, l'acteur Jean-Louis Barrault, serait fier de son parcours, autant que nous sommes de la recevoir dans ce studio. Du printemps proustien au Festival d'Avignon, elle vient ce matin nous parler de ses diverses actualités. Marie-Christine Barrault est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Marie-Christine Marot.
Bonjour Anne.
Vous faites un millier de choses du haut de vos 75 ans, on peut le dire.
Oui, je viens de les avoir.
Et vous êtes en pleine forme.
Ouais, vous les faites pas.
Ah ben c'est très agréable à entendre.
C'est vrai, vous êtes une très belle femme.
Mais il y a des... Au milieu de l'âge, on a tendance à se dire « Oh là là, c'est terrible, je ne veux pas trop dire mon âge. » Mais à partir d'un certain âge, au contraire, justement, pour entendre ça, « Ah mais vous ne les faites pas. » Alors ça, c'est agréable.
Je suis sûre que vous plaisez encore beaucoup aux hommes.
Mais je ne cherche pas.
Non, mais vous ne cherchez pas.
Mais ils vous trouvent.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis plus dans ce mood-là, mais il y a une autre façon de plaire. Une autre façon de plaire, qui n'est pas forcément de la séduction immédiate féminine, mais qui est plus globale, plus
de plaire aux
à la
hommes,
fois
aux femmes, à tout
intellectuelle, cérébrale, amicale, très. Mais l'histoire d'amour elle-même, on ne la cherche plus et c'est très reposant.
C'est vrai.
Ah, moi je trouve ça merveilleux.
Tu vois,
je suis en train
solution,
d'écrire là-dessus. Je suis en train d'écrire qu'on n'est plus dans cette espèce de fatalité de la séduction qui, quand même, nous accompagne, il faut bien le dire. Hein. Même si on est un peu féministe, on a toujours envie de plaire. Toujours,
bah,
toujours.
Oui.
Toujours, et on compte les points en se disant à celui-là, est-ce que je lui plais, Eh bien, il y a un moment donné où on ne pense plus à ça. Et du coup, on est très libre dans les rapports avec les gens.
Ah ouais,
et c'est merveilleux.
Mais la vie sexuelle dans tout ça,
excusez-la, on la sort une fois par semaine.
On est sur quelle chaîne là?
Non. Elle est sous traitement, tout va bien, ça va aller.
Je ne savais pas que Brigitte Lahaie était chroniqueuse.
Et la vie sexuelle dans tout ça.
On reçoit une des plus grandes actrices du théâtre et du cinéma.
Et on parle cul.
Bah, je me pose la question.
Bah,
moi.
Tu verras bien.
Bon, on en parlera hors antenne.
Toi, tu n'as pas de vie sexuelle à 40 ans, donc à 75 ans, ça doit être encore plus facile.
Bah oui, moi je me dis, une si belle femme, évidemment, on ne peut pas se dire qu'à cet âge-là, eh ben, on ne se contente que d'amitié.
Mais bah, si, rassure-toi, dans 35 ans, tu seras tranquille.
Et puis elle ne va pas raconter ça à l'antenne, de toute façon, c'est sa vie privée. Et nous, c'est comme si ce n'est pas du tout
notre genre. Ça ne nous regarde pas.
Pas du tout.
Moi, j'attendais de la mettre en confiance.
Je vais quand même lui répondre à cette question. Parce que moi, j'ai toujours pensé que quand on est sur scène, et ce n'est pas Anne Romanoff qui va dire le contraire, il y a quelque chose de sexuel à être sur scène.
Ah oui, je suis d'accord.
Il y a une espèce de plénitude physique, charnelle, et qui fait que ça répond à certains besoins. Et après, on n'est pas dans cette espèce de quête de sexe pur qu'on avait quand on était jeune. Mais en même temps, on n'en est pas totalement détaché grâce à ça.
Ah, bon, il faut que je continue la scène.
Oui, voilà. Oui. On se sent déjà assez désiré sur scène.
Ouais.
On est désiré dans notre métier quand même. Ouais, on est désiré par le public, on est désiré par le travail qu'on fait. On est quand même très, très, ça va très profond. Évidemment, il y a des métiers qui ne donnent pas ça. Mais notre métier à nous, même toute seule dans ma cuisine le soir, cette nuit, à travailler mes textes de Proust, il y a une plénitude, je vous assure, qui fait que quand je vais me coucher, je ne me dis pas « Oh, il n'y a personne dans mon lit. Oh, » Je ne me dis pas.
Il y a
plein de gens dans mon lit avec moi.
Il y a Proust.
Il y a Proust, il y a George Sand en ce moment. Ouais.
En tout cas, Marie-Christine Barreau, si j'étais un homme...
Oh, vous seriez capitaine.
Ça fait 5 minutes.
Descends-là, allez jusqu'au bout.
Si j'étais un homme dans les 70-80, je vous trouverais magnifique.
Voilà.
Vraiment, je suis sûre qu'il y a des hommes qui essayent.
Mais écoutez, j'ai plein d'amis, mais...
Tu la séduirais comment?
Ah, oui. Ah non, j'en sais rien, mais je... Non, mais c'est... Ma mère, à cet âge-là, ça rend pas pareil.
J'espère qu'elle n'écoute pas l'émission.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Laurent Barra, Léa Landau-Benhache et notre invitée, la magnifique Marie-Christine Barreau, veut nous parler de sa participation au printemps proustien demain, le 17 mai à Chartres. Ses lectures improvisations sur des thèmes de Messiaen le samedi 18 mai à Avignon et surtout la pièce Georges et Sarah au Festival d'Avignon en 2019 au Théâtre des Corsins. Ne bougez pas.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Laurent Barra, Léa Landau-Benhache et notre invitée, la magnifique Marie-Christine Barreau.
Oui. D'ailleurs,
vrai.
J'ai une question à vous poser théâtrale. Vous êtes sur Tinder?
Ah non, alors pas du tout.
Bah, je plaisantais.
J'ai déjà mis un pied dans Facebook et dans Instagram et ça me suffit. Mais je mets rien, moi je regarde. Vous savez pourquoi je suis sur Instagram? C'est pour avoir des photos, des nouvelles de mes petits-enfants.
Voilà.
Ah, je fais, ah Camille, elle avait ça aujourd'hui. Ah Simon, ah oui, d'accord, ok. Mais moi je mets pas.
Et vous leur lisiez des histoires, j'imagine.
Quand ils étaient petits, oui.
Ouais.
Maintenant, j'en ai beaucoup de petits-enfants, j'en ai sept.
Ah, oui. Sept petits-enfants?
Oui.
Ah ouais.
Vous avez une joie de vivre quand même, Marie-Christine Barrault, qui est rare chez les actrices, en fait.
Oui, et d'ailleurs, pendant un certain temps, je voyais ça comme un handicap. Parce que chaque fois que les actrices étaient interviewées, elles expliquaient leurs états d'âme épouvantables. Heureusement que le cinéma est là pour me sauver et tout. Et moi, j'étais très, très heureuse. Et je me disais, mais quand je dis que je suis heureuse, j'ai l'air d'une bêta qui est là. Elle dit, la vie est belle et tout. Mais la vie est belle parce qu'on la rend belle.
Eh oui.
Elle n'est pas belle comme ça. D'ailleurs, j'ai raconté, j'ai quand même écrit 2 livres sur ma vie, mais moi, j'ai eu une enfance dure, difficile, avec énormément de chagrin.
Parce que votre mère a quitté votre père très vite.
Oui, mon père
votre
est mort.
Quand vous avez 14 ans.
Mon père est mort quand j'avais 14 ans, après une très, très... Quand je dis une longue maladie, c'est vraiment une longue maladie.
Sclérose en plaques. Voilà.
Une très longue maladie, de longues années, où je le voyais dans un état épouvantable. Donc, j'ai vraiment...
Votre mère vous a fourgué chez votre grand-mère jusqu'à...
Oui, petit. On a été élevés par notre grand-mère, mon frère et moi. Mais tout ça, c'était plutôt joyeux en même temps, parce que ma grand-mère nous adorait. Mais enfin, je veux dire que c'était tout sauf une enfance tranquille, un fleuve tranquille. Et de tout ça, eh ben, on fait quelque chose. On fait quelque chose. Et moi, mon caractère était de faire quelque chose.
Donc votre oncle Jean-Louis Barrault, alors lui, il ne vous a jamais encouragé, en fait.
Jamais. Non seulement pas encouragé, mais pire que ça. Enfin,
découragé. Je vous avais dit, t'as rien pour faire de la scène.
T'as rien pour être actrice. Ma tante Madeleine Renaud m'a dit, en tout cas, tu feras jamais de cinéma avec le physique que tu as. Ouais. Ce qui tombait quand même bien quand on a 18, 19 ans et que déjà on se regarde dans la glace en disant, qu'est-ce que je suis moche. Elle m'a dit ça, puis enfin bon, des choses comme ça, mais ça m'a pas...
Ils ont vu votre succès ensuite ?
Oui, c'est plutôt ça qui m'a un peu choquée, c'est qu'ils sont jamais venus me voir jouer.
Ah ouais ?
Jamais. Une fois, Jean-Louis est venu une fois parce que je jouais une pièce mise en scène par Planchon avec comme partenaire Laurent Terzieff et qu'il avait travaillé avec Laurent Terzieff. Donc je lui ai dit en riant, bah, tu vas peut-être venir voir Laurent Terzieff. Il se trouve que j'étais la partenaire de Laurent Terzieff et là il est venu. Mais c'est la seule fois.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit en sortant de scène ? Il vous a dit quelque chose ?
Il m'a dit que c'était long.
non,
j'exagère. Mais on n'a pas parlé du fond. Voilà, moi, je regrette aujourd'hui. Je vois, Annie Dupéré a écrit des livres magnifiques, dont un dans lequel elle parle de sa relation avec Jean-Louis Barrault, qui lui avait tout appris, qui a été vraiment pour elle un père spirituel. Et moi, je me disais, moi qui suis de son sang,
oui.
Il n'avait pas d'autre enfant que cette nièce et mon frère, son neveu. Et il ne s'est rien passé direct. Alors, la transmission, elle peut être indirecte, hein, parce que j'ai une telle admiration pour tout ce qu'il a fait que c'est en moi, je veux dire, c'est un héritage.
En plus, Annie Dupéré, vous étiez au conservatoire avec
elle. On était ensemble, on est rentrés la même année, Annie et moi. Mais bon, je ne suis pas jalouse de Annie, mais simplement, je me dis, alors, il était capable d'avoir cette position de père, de quelqu'un qui transmet quelque chose à quelqu'un qui n'est pas de sa famille, et moi, rien. Et moi, au contraire, il me regardait un peu avec dédain. Mais même les films, moi, je me souviens d'une scène... J'étais au théâtre, à ce moment-là, c'était le théâtre d'Orsay. Je rentre dans la loge après un spectacle, il y avait François Perrier. Et François Perrier me voit arriver, il se tourne vers eux et il leur dit oh, cousine, venez de sortir, il y avait un mois ou deux. Et il dit Marie-Christine, vous l'avez vue dans Cousin, cousine, elle est merveilleuse et tout. Et j'ai vu Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud faire la gueule. Et ils n'avaient évidemment pas vu Cousin, cousine et ils s'en foutaient complètement. Et François Perrier était là à dire bon, et là, ça m'a fait plus de peine. Parce qu'au début, dans une famille, on dise « Ouais, bon, la petite, elle veut être actrice, ouais, elle croit que c'est facile et tout », qu'on essaye de la titiller pour voir si vraiment c'est ancré en elle. D'accord, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Vaut mieux ça que d'être des familles qui sont là, la bouche ouverte, « Oh, c'est merveilleux ». Mais après, qu'ils ne se soient pas du tout intéressés à mon chemin, qui quand même est un vrai chemin d'actrice, ça m'a fait de la peine.
Mais c'était une famille où on ne parlait pas beaucoup de ces choses-là. Vous dites, on ne disait rien, on faisait comme si tout allait bien.
Mais vous ne trouvez pas que c'était un peu... Enfin, vous ne savez pas, mais ma génération en parlait très peu. On parlait très, très peu. Quand j'ai écrit mon premier livre, Le cheval dans la pierre, où je parle justement de toute mon enfance et tout, et ma mère était très inquiète, parce qu'elle détestait que les gens sachent des choses. Donc elle disait à ma fille, tu lis ce qu'écrit ta mère, qu'est-ce qu'elle écrit? Et ma fille disait, ben oui, je lis, maman me fait lire. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne parle pas de son enfance, quand même. Ma fille dit, si, elle parle pas mal de son enfance. Et ma mère dit, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, Ariane, ma fille, dit, je crois qu'elle a beaucoup à dire. Mais en fait, ce n'était pas un règlement de compte.
C'était de la pudeur, vous
quand
pensez?
Le livre est sorti, j'ai dit à ma mère, écoute, tu sais, on va déjeuner ensemble. On se voyait tout le temps. Mais là, on va déjeuner spécifiquement sur le livre et sur nos souvenirs. Et quand elle s'est assise à la table du restaurant, elle a dit « Tu sais, c'est terrible de penser qu'on a fait le malheur de ses enfants. » Mais je lui ai dit « Mais maman, tu n'as jamais fait mon malheur. Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de malheureux ?» Non, je dis « On a traversé des moments houleux, des ouragans. Et ça a été dur pour tout le monde, aussi bien pour toi que pour nous tous. » Parlons-en. Mais à l'époque, on ne parlait pas. Quand j'étais petite, on ne parlait pas. Est-ce que vous pensez que moi, quand mon père est mort, ma mère ne s'est jamais assise à côté de moi pour me dire « Ma chérie, est-ce que tu as du chagrin ?» On n'en a pas parlé. On s'est préparé le matin pour aller à l'enterrement, point final.
Mais c'est de la pudeur.
C'était peut-être de la pudeur, mais c'est surtout qu'à cette époque-là, on ne parlait pas, et particulièrement pas les parents et les enfants.
C'est fou.
Maintenant, oui, quand je vois tous les sujets que j'aborde avec mes enfants, avec mes petits-enfants...
On parle trop, des fois.
En tout cas, on parle énormément. Alors, je ne sais pas si c'est... Peut-être, dans certains cas, c'est trop, mais à l'époque que j'ai vécu, moi, enfant, on ne parlait pas. Et même mon frère, par exemple, mon frère, quand il lit ce que j'écris, il me dit « Oh, mais moi, je n'ai pas vécu tout ça. » Je lui dis « Écoute, on a 2 ans de différence, on a vécu vraiment les mêmes choses. » « Ah non, non, moi, je ne vois pas les choses de la même manière. » Et lui, il est resté dans ce mood, on ne parle pas trop de ces choses-là. Mais en même temps, ça fait du bien de parler. Regardez, je suis payée pour ça.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Marie-Christine Barrault qui va participer au Printemps Proustien en lisant des morceaux de La Recherche du Temps Perdu vendredi 17 mai à 17h à Chartres. Et puis surtout, elle sera dans la pièce Georges et Sarah de Tirer la Salle au Festival d'Avignon 2019 au Théâtre des Corsins tous les soirs à 20h20.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Laurent Barra, oui. Léa Landau, oui. Ben H et notre invitée, ouais. Marie-Christine Barrault qui sera au Festival d'Avignon avec la pièce Georges et Sarah de Thierry Lassalle au Théâtre des Corsins à 20h20. Alors c'est une pièce où vous incarnez Georges Sand qui vient chercher du travail auprès de Sarah Bernhardt, c'est ça ?
Elle vient proposer une pièce, oui, à Sarah Bernhardt, et Georges Sand, c'est vraiment les dernières années de sa vie. Donc
plus personne ne veut d'elle.
Plus personne ne veut jouer sa pièce, enfin monter sa pièce au théâtre. Et elle a une fin de vie un peu plus difficile, disons.
C'est une rencontre qui a vraiment eu lieu ou c'est fictif ?
La rencontre a eu lieu. Ouais. Sarah Bernhardt était à Port-Blanc en Bretagne et Georges Sand a été jusque là-bas pour la voir. Ce qu'elles se sont dit, on ne sait pas. Ça, c'est l'invention de Thierry Lassalle. C'est une très, très belle... C'est un très beau moment à la fois de dialogue et en même temps, elles se lancent pas mal de piques toutes les deux. Sarah Bernhardt est encore très jeune et surtout, alors, elle au sommet de sa gloire. Et évidemment, le directeur du théâtre, comme les directeurs du théâtre aujourd'hui, disent « Ah ben votre pièce, elle est... oui, on la montrait éventuellement. Ah, si on avait Sarah Bernhardt, ah, si on avait Isabelle Adjani, ah, alors là, on la montrait. » Donc Georges Sand n'a fait ni une ni deux, elle est partie en se disant « je vais la convaincre ». Mais malheureusement, la première pièce que Sarah Bernhardt a jouée, c'est une adaptation de François Le Champy de Georges Sand. Et à l'époque, ça s'était très mal passé, parce que Georges Sand ne voulait pas que ce soit elle qui joue. En plus, elles couchaient toutes les deux avec le même homme qui était le directeur du théâtre de l'Odéon. Donc Sarah Bernhardt s'en foutait que Georges Sand couche avec lui, mais Georges Sand, ça l'avait énervée. Et donc, elle est très très mal reçue au départ, très mal. Et bon, voilà.
Au final, Sarah Bernhardt ne jouera pas cette pièce ?
Elle la jouera.
Elle la jouera ?
On ne le dit pas dans la pièce. Enfin, on le dit, si, dans une espèce d'épilogue, on le dit. Non seulement elle jouera la pièce, mais quand Georges Sand est morte, Sarah Bernhardt était en tournée en Allemagne. Elle a fait interrompre la tournée pour venir à l'enterrement de Georges Sand à Paris.
Ben H a des choses à vous dire, Marie-Christine Barrault.
Oui, Marie-Christine Barrault. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je suis très mauvais devant les actrices en général. Hein, j'ai la bouche sèche, je perds mes moyens, complexe d'infériorité. Vous qui avez l'habitude de lire Yourcenar, Proust et tant d'autres, hein, qui suis-je au milieu, hein, pour vous, mon papier, c'est à peine du McDo, alors que paradoxalement, pour mes camarades, Léa et Laurent, ce même papier, c'est du caviar. Comme quoi, hein, question de niveau, question de point de vue. Mon problème, en fait, c'est que j'aime tellement les actrices que je ne sais jamais comment parler, comment les écrire, comment saisir toutes leurs nuances. Hein, étrangement, c'est face à une comédienne que je manie le moins la comédie. Je chronique une grande actrice comme je séduis une jolie femme. Hein, je me pose 1000 questions avant d'entrer dans l'action. J'ai envie d'être drôle et fou et je finis chiant et mou. C'est nul. Déjà devant une comédienne de Plus belle la vie, j'ai la plume qui bégaye. Alors ce midi, devant une actrice nommée aux Oscars, ma plume tremble jusqu'au dernier poil. Le jour où on reçoit une actrice oscarisée qui aura joué dans Plus belle la vie, je vous préviens, on n'est pas à l'abri que ma plume fasse un AVC.
un arrêt volontaire de chronique. J'y peux rien. Oui, Marie-Christine Barrault, vous étiez nommée dans la catégorie meilleure actrice lors de la 49e cérémonie des Oscars pour votre performance dans le film Cousin Cousine. Cérémonie qui a vu briller une illustre inconnue, Faye Dunaway, machin truc ou une connerie comme ça. Hein, une cérémonie où en coulisses, Robert De Niro himself aurait déclaré à l'époque « Marie-Christine Barrault mérite cet Oscar. Elle est trop ouf dans ce fucking film. » Si, si, il l'a dit. Et s'il l'a pas dit, je sais que mon oncle Robert De Niro, lui, il l'avait dit. J'en suis sûr. Plus de 50 années sous l'œil d'une caméra, plus d'un demi-siècle de rôles et de répliques. Être une actrice, c'est être un désir, un fantasme, c'est être un objet de convoitise des réalisateurs, des metteurs en scène. Et le moins que l'on puisse dire, Marie-Christine Barrault, c'est que depuis 1965, ces gens-là ont envie de vous. Ça fait révéler, hein ? Une centaine de films et de téléfilms au total, et je ne compte pas les dizaines de pièces de théâtre, le tout sans interruption. Votre visage est familier de tous, Marie-Christine Barrault. Vous êtes une actrice, une vraie. Aussi à l'aise chez Éric Rohmer ou Woody Allen que sur les planches plus confidentielles du Festival Off d'Avignon. Les années passent, les textes défilent. Une actrice ne vieillit jamais. Elle change juste de rôle. Je vous en souhaite une centaine d'autres. Marie-Christine Barrault, ce fut un plaisir de vous écrire ce midi.
Oh là là !
Eh ben, qu'est-ce que ça serait si vous n'étiez pas intimidée ?
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invitée Marie-Christine Barrault, venue nous parler de sa participation au Printemps Proustien demain le 17 mai à Chartres et surtout de la pièce Georges et Sarah qui sera au Festival d'Avignon au Théâtre des Corsins à 20h20. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Laurent Barra, oui. Léa Londeau, Ben H et notre invitée Marie-Christine Barrault veut nous parler de la pièce Georges et Sarah qui sera au Festival d'Avignon, une pièce consacrée à Georges Sand et Sarah Bernhardt, une rencontre au sommet entre ces deux actrices qui a vraiment lieu mais qui est romancée et tournée en comédie aussi.
Ah oui, mais je crois que ça a excité l'imagination de Thierry Lassalle, cette idée de cette confrontation, surtout à Port-Blanc. Alors, Port-Blanc, s'il y a des Bretons qui nous écoutent, c'est vrai qu'à l'époque, ça devait être vraiment le bout du monde. Aujourd'hui, je pense que ça devait être plus facile d'y aller. Et donc, cette confrontation entre ces deux femmes, c'est vrai, ça a excité son imagination, parce qu'elles apportent chacune leur monde, mais elles sont incroyables toutes les deux, je veux dire. Moi, Georges Sand, je dis en riant, parce que je suis présidente d'honneur des fêtes de Nohant, du Festival de Nohant, qui était donc la maison de Georges Sand dans le Berry. Donc quand même, je prends mon rôle très au sérieux, j'y vais tout le temps, enfin j'y vais souvent et tout. Mais Georges Sand, je voulais écrire, si j'avais le temps, si, c'est un autre monde quand même d'écrire, enfin d'écrire comme ça, des livres autres que pour de soi. Je voulais écrire un livre pour dire aux femmes d'aujourd'hui ce qu'elles doivent à Georges Sand. Georges Sand, elle a ouvert toutes les portes que les féministes ont utilisées après. Je veux dire, par exemple, rien que son divorce, je veux dire, c'était une femme quand même à la fois de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui a réussi quand même un divorce comme même aujourd'hui on serait admiratif.
Vous-même, vous avez été une famille, Christine Barrault, parce oui. que justement vous n'avez pas craint de quitter Daniel Toscan-Duplantier avec deux enfants sous le bras parce que ça n'allait
alors
plus.
Alors qu'il devenait producteur de cinéma, oui. que j'avais tout à gagner à rester sous son aile.
Vous avez posé pour lui quand vous aviez, je ne sais pas.
Ah oui, non, mais moi j'ai pas cessé d'ouvrir des portes. C'est pour ça que je dis en riant, je suis l'incarnation de Georges Sand. Une des incarnations de Georges Sand.
Et maintenant, la liberté, ça consiste à dire je suis heureuse toute seule, en fait.
Mais j'ai toujours dit ça. Moi, j'ai élevé ma fille comme ça. J'ai élevé ma fille en lui disant le bonheur, il est en toi. Ta vie, elle est en toi. Si en plus, il y a la petite cerise sur le gâteau de l'amour, c'est merveilleux. Exactement. Tu le prends. Mais tu ne fais pas dépendre ta vie de sentiments qui, par définition, sont aléatoires. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas de les faire durer, ces sentiments. Mais les faire durer pour des raisons économiques, pour des raisons sociales. Je ne peux pas être toute seule, donc je reste avec quelqu'un que je n'aime plus. Pour moi, c'est l'horreur absolue. Donc, c'est comme ça que j'ai élevé ma fille. Et elle a fait exactement comme moi. Elle a quitté son mari avec ses deux enfants sous le bras, en disant pas trois jours de plus. Jusque-là, je la voyais, elle me dit non, pas trois jours de plus. Tout d'un coup, ça a été direct. Et puis, elle a refait sa vie. Et puis, je veux dire, c'est une femme qui ne dépend pas des hommes. Et pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les hommes. Ça veut dire qu'on ne dépend pas. Dépendre d'un homme, déjà, il y a quelque chose de vicié dans l'amour. On doit aimer librement, chaque matin, décider que l'homme avec lequel on vit est celui que l'on choisit à ce moment-là.
Dans
les deux sens, ça va aussi. Il ne faut pas dépendre d'une femme non plus, sentimentalement et tout.
C'est... Ah non, mais ce que je dis, moi, je suis une femme, alors je parle pour les femmes, mais c'est absolument vrai dans les deux
sûr,
sens.
Bien sûr.
Bien sûr.
Mais c'est la base du développement personnel, d'apprendre à d'abord vivre du bonheur par soi-même.
Oui, s'aimer
absolument.
Soi-même.
Et alors, à ce moment-là, quand on a ça en soi, on peut avoir une relation géniale avec l'autre, quel qu'il soit.
Léa Landau a des questions à vous poser, Marie-Christine Barrault.
Oui, Marie-Christine Barrault. Bon, on l'a dit, vous allez participer au printemps proustien. Donc, vous devez donc maîtriser à la fois le printemps, ses beaux jours, ses hormones frétillantes.
Je suis née le jour du printemps, le 21 mars.
Le 21 mars.
Printemps. Oui.
Et aussi, donc, vous devez maîtriser Proust, que vous connaissez bien, ses histoires d'amour, son talent et son questionnaire. Je suis donc venue avec ce midi le questionnaire de Proust. Et je vais vous en poser les questions, Marie-Christine Barrault. Vous êtes prête ?
J'ai rien préparé.
Ben non, justement, c'est fait exprès. Le questionnaire de Proust, ça doit être spontané. D'ailleurs, on peut le refaire 10 ans plus tard. C'est souvent des réponses différentes.
Mais bien sûr.
Alors, on va voir pour aujourd'hui. Votre vertu préférée ?
Le courage.
Vos qualités préférées chez un homme ?
L'intelligence.
Vos qualités préférées chez une femme ?
L'intelligence.
Votre passe-temps préféré, Marie-Christine Barrault ?
Les sudoku et les mots croisés.
C'est vrai ? Quelle force !
Oh, très forte.
Ah ouais ? Votre principal trait de caractère ?
L'impatience.
Votre héroïne préférée dans la vie ?
Ma fille.
Votre bête noire ?
Le temps. Courir après le temps. Toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps.
Votre dicton préféré ?
Si tu savais, c'est merveilleux.
Et votre émission de radio préférée, Marie-Christine Barrault ?
Comment ça s'appelle, cette émission ?
Ça fait du bien.
Ça fait du bien ? Ouais. Oh, en plus, ça fait du bien.
Eh bien, merci beaucoup.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Marie-Christine Barrault, on a une tradition dans ces émissions. Chaque lundi, on démarre une histoire et nos invités la poursuivent au long de la semaine. Elle a été démarrée lundi par Daniel Thierry, ex-commissaire de police devenu auteur de Polar, poursuivi mardi par Grégoire et Emma et hier par Michel-Édouard Leclerc.
Proust ! Non mais je ne crois pas.
Ah.
Peut-être qu'il n'y avait que Proust.
Non, il n'y avait pas que Proust. Alors, ça vous va comme mot, Proust, Marie-Christine
oui,
Barrault ?
Alors, je le mêle à quoi ?
Alors, vous allez écouter le début de l'histoire. À vous de la poursuivre en une ou deux phrases.
Nous sommes dans un parc zoologique et je suis en train de contempler les lions. Et soudain, je me retourne et derrière moi, je vois un individu. Son œil est plus féroce que celui des lions.
Je n'avais jamais vécu une expérience de la sorte. À ce moment-là, j'ai senti mes jambes se dérober.
Trembler.
Il poussait un caddie. Je pensais que c'était un serial killer. Mais à l'intérieur du caddie, il y avait Anne Romanoff, grand sourire, avec un petit doigt dans la bouche.
Anne Romanoff avait apporté un sac. Et dans ce sac, il y avait des livres, parce qu'elle ne savait pas trop comment la journée allait se passer. Et donc, il y avait un certain nombre de livres. Et dans ce livre, il y avait La recherche du temps perdu de Proust. C'est vous dire si elle avait l'intention de rester un moment. Hein. Elle ouvre le livre. Le début du livre, c'est « Longtemps, je me suis couchée de bonne heure ». Elle a pris un oreiller et elle s'est endormie.
Merci Marie-Christine Barrault d'être passée nous voir. On rappelle que vous serez au Festival d'Avignon cet été avec la pièce « Georges et Sarah » consacrée à Georges Sand et Sarah Bernard au Théâtre des Corsins avec Christelle Reboul et Paul Perrier-Little dans une mise en scène d'Olivier Massé, une pièce de Thierry Lassalle. Merci à vous Marie-Christine Barrault.
Merci.
On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.